Guillaume Couture est originaire de Normandie. Il est né en 1617. Il est né dans la paroisse de Saint-Gaudard de Rouen. Il est le fils de Guillaume Couture et de Madeleine Mallet. Nous savons qu'il apprendra à écrire et à lire, ce qui est rare et original pour un homme de sa condition. De son métier, Guillaume Couture est menuisier, charpentier. Il sera recruté en France par des agents de la Compagnie de Jésus. C'est René Goupil qui va convaincre Guillaume Couture de se lancer dans l'aventure américaine. En 1637, à l'âge de 20 ans, il traverse l'Atlantique pour la première fois, et ce sera aussi la dernière fois, puisqu'il ne reviendra jamais sur ses pas. Pour sa traversée, elle est classique. Le voyage se déroule très mal, il est anormalement long, il est dangereux, pénible, houleux, une de ces spectaculaires mauvaises traversées d'une époque où toutes ces choses n'étaient pas sûres. On dit qu'il a voyagé en compagnie de René Goupil, son recruteur. Une chose est certaine, c'est un donné des Jésuites. C'est un serviteur laïque au service de la Compagnie de Jésus. Il doit obéissance et, assez curieusement, chasteté. Il ne sera pas payé, mais il reçoit en retour gîte et pitance. Il quitte une France sans espoir pour un homme de sa condition, c'est-à-dire un homme du peuple et un homme de métier. C'est Guillaume Couture l'exemple type de l'homme français qui s'en vient en Amérique pour échapper à une vie plus que misérable en France. Il sera donc un donné des Jésuites, c'était un contrat pour une période définie. Il agira bel et bien comme leur ouvrier. Assurément, il n'est pas resté longtemps à Québec quand il est arrivé. Il va partir immédiatement pour aller dans les missions du Wendake. Alors, le Wendake, bien sûr, c'est le pays des Hurons, c'est donc la Huronie. Nous sommes en baie Georgienne, à 1200 kilomètres en amont de Québec. Là, il est responsable de la construction de la mission des Jésuites à Sainte-Marie, au Huron. En fait, c'était un village, Wendat, très bien constitué, et les Jésuites, en périphérie du village, construisent à l'européenne un établissement, le premier sur les Grands Lacs. Tout ça se passe en 1639-1640. Alors voilà le menuisier charpentier qui est à l'œuvre. Il faut abattre les arbres, il faut des scieurs de long, il faut faire des planches, des poutres, il faut faire des clous, il y a un forgeron. Alors, il n'est pas le seul donné, là. Il y en a d'autres avec lui. Premièrement, il va se lier d'amitié avec un jésuite, le père Jogues. Il va aussi, bien sûr, connaître le père Brébeuf, qui est sur les lieux. Brébeuf est un grand personnage. Il espère, lui, une véritable colonie française dans les Grands Lacs. Et justement, il pense que les Français devraient avoir une colonie au pays des Hurons. Mais comment avoir une colonie dans les Grands Lacs? Et c'est un problème qui sera récurrent dans l'histoire, quand on n'est même pas capable de consolider la colonie de Québec. Le projet jésuite, le projet français, qui est un projet des conversions chrétiennes, s'annonce une entreprise impossible. Et Brébeuf est quand même réaliste. C'est un mystique réaliste. Brébeuf sait qu'ils ne vont pas réussir. Il est là depuis presque 10 ans en Huronie, au moment où Guillaume Couture arrive. Il parle la langue huronne et il sait que les Hurons ne sont pas des brebis faciles, ne sont pas des naïfs, ce sont des résistants. Ils ne se convertissent pas, et ce, malgré les dires un peu publicitaires des relations des Jésuites. Les Hurons ne sont pas chauds à l'idée de devenir catholiques. Dans ses deux ou trois premières années à Sainte-Marie-aux-Hurons, Guillaume apprend la langue Wendat, qui est une langue iroquoienne. Et il analyse, il constate, il comprend que la situation des Jésuites est critique. Il faut se rappeler que nous sommes en 1640. La mort de Champlain est toute récente, 5 ans. Étienne Brûlé, aussi, est mort récemment. Ville-Marie n'est même pas fondée. C'est l'époque du borgne de l'île, le fameux Tessouat. C'est l'époque du guerrier algonquin Piscaret, du sorcier Pigarouish et autres chefs algonquins qui font la loi en ces régions. Ils font la guerre aux Iroquois le long du fleuve et la rivière des Outaouais. Les Jésuites maintiennent de peine et de misère leur établissement au Wendake. Les Hurons avaient permis du bout des lèvres la construction de la mission. Donc, il n'y a rien de solide, là, et il n'y a rien de facile. La guerre avec les 5 nations iroquoises est totale à l'époque de l'arrivée de Guillaume Couture. Elle est d'une violence inouïe. Les risques sont réels. Les 4 nations Wendat-Huron, alliées aux Algonquins et aux Français, ces 4 nations hier si fortes, si dominantes, les Attignenonganak, où Couture se retrouve, d'ailleurs, la nation de la corde, les Attignaouantan, les Arandaronon et les Taontanrat sont toutes en difficulté. Déjà, les épidémies font rage parmi les Hurons. 1634, petite vérole. 1636, grippe maligne. 1639, retour de la petite vérole. La population de la Confédération Wendat fond comme neige au soleil. Ils étaient 30 000 en 1635. Ils n'étaient plus que 12 000 en 1645. Les défaites militaires aux mains des Iroquois armés par les Hollandais de Manat et de Rensselaerwijk, c'est le nom hollandais de Albany, eh bien, les défaites militaires des Hurons se multiplient. Donc, les Wendat Hurons que Guillaume Couture rencontre, observe, admire et étudie sont membres d'une nation fière qui vit ses dernières années d'existence en leur pays. Encore 10 ans, ils seront tous en fuite sur les voies de l'exil. Néanmoins, durant son séjour ouvrier à Sainte-Marie-aux-Hurons, Guillaume apprend l'univers Huron, justement, l'univers Wendat. Il est un observateur des choses concrètes. Il est beaucoup plus concret que les pères jésuites. Il s'intéresse à l'organisation du travail, à l'organisation sociale, au savoir pratique, comment on fait la culture, comment on récolte, comment on stocke le maïs, comment on construit les maisons, enfin, des choses pratiques. Mais il assiste aussi au grand rituel. Il assiste aux tortures des prisonniers iroquois, tortures qui se répètent en cette époque violente. Il apprend les rites de la mort et de la vie. Lentement, Guillaume Couture devient un initié, un familier. La culture Wendat, qui est iroquoienne, comme on sait. Mais surtout, il se sent bien dans ce monde. La mission jésuite, on l'a dit, se situe très loin, à 1200 kilomètres de Québec. Cette distance, il faut la parcourir régulièrement, aller-retour, pour les convois de fourrure, pour le transport des hommes, pour le courrier, pour le transport de la marchandise en général. D'autant que la vie des Jésuites ne tient qu'à un fil sur le territoire du pays Wendake. Les Iroquois menacent, certes, constamment sur la route. Mais les Hurons eux-mêmes commencent à penser à cette époque que les Roms noirs sont aux sources mêmes de leur maladie, c'est-à-dire aux sources sorcières de leur malheur. En 1642, Durant l'été, un convoi important revient du Wendake vers Québec. Guillaume Couture en fait partie, ainsi que des jésuites, dont le père Jogues, qui reviennent vers Québec. Il y a de nombreux personnages Wendat proéminents, dont Ahatistari, l'important capitaine militaire de la nation des Attignananganak. Alors, les Français faisaient surtout affaire avec les Attignananganak à cette époque, la nation Huron de la Corde. Alors, Ahatistari, c'était un guerrier charismatique, une légende vivante dans tout le nord-est américain à cette époque. Les Iroquois le craignaient beaucoup pour les nombreux coups de main qu'il avait portés avec succès contre eux. Ahatistari a 40 ans en 1642. Il vient tout juste d'être baptisé sous le nom de Eustache. Les jésuites y tiennent beaucoup, c'est une belle prise, une légende vivante, Wendat, qui est devenue catholique. Donc une personnalité très importante dans la guerre des fourrures, comme dans la guerre des armes. La flottille de canots passe devant l'île de Montréal, qui depuis l'époque du Hochelaga des Iroquois du Saint-Laurent, en 1535-1540, l'époque de Jacques Cartier, eh bien depuis, c'est une île déserte en raison de la situation dangereuse de l'île au confluent des guerres entre les nations amérindiennes. Mais cet été-là, au retour, en 1642, il y a une activité sur l'île de Montréal. Ce sont les Montréalistes de Maisonneuve qui, contre l'avis de Montmagny à Québec, contre l'avis de la Compagnie de Jésus aussi, sont en train de bâtir un fort et un établissement pour la conversion des sauvages. Alors, il faut comprendre ici que ce sont des concurrents dans la course aux armes. Et nous savons que la Compagnie de Jésus n'aimait pas la compétition. Guillaume Couture et les autres n'en vont pas rester longtemps à Québec cet été-là, de 1642. En fait, ils vont rester 15 jours, tout au plus. Le 1er août déjà, 12 canots emportant une quarantaine de personnes se remettent en route pour le Wendake lointain. Ces voyages, à chaque fois, sont extrêmement dangereux en raison de la guerre permanente qui sévit en Amérique. Dans le convoi, il y a le père Jogues, René Goupil. Vous savez que René Goupil n'était pas jésuite, c'était un laïc qui voulait devenir jésuite, mais qui était sourd. La Compagnie de Jésus ne prenait pas les sourds comme jésuite. Alors René Goupil, lui, fait son premier voyage dans les pays d'en haut. Il y a de nombreuses personnalités politiques Wendat venues à Québec pour renforcer les alliances avec les Français. Et il y a des gens d'autres nations amérindiennes. Ahatistari est du voyage, il était du voyage de l'aller, il est du voyage du retour. Ils font un arrêt à Trois-Rivières, qui est un poste de traite à l'époque, qui commence et qui est important. Donc au départ de Trois-Rivières, sur le lac Saint-Pierre, ils sont attaqués par des Iroquois qui les attendaient. Ils étaient en embuscade. En fait, on a l'impression que les Iroquois étaient en embuscade permanente durant ce siècle au lac Saint-Pierre. Les combats sont violents. Les belligérants se dispersent dans toutes les directions. Les morts sont nombreux, mais à la fin, les Iroquois vont sortir vainqueurs de cet engagement. Le père Jogues est fait prisonnier, Goupil aussi, ainsi qu'Ahatistari. Guillaume Couture, lui, a réussi à s'enfuir, mais il revient sur les lieux en quête du jésuite Jogues et son ami. Il veut le secourir. Mal lui en prit. Il est découvert par les Iroquois. Alors, il y aura un combat, lui, contre trois Iroquois. Il va tirer du mousquet. Il va tuer le capitaine de la bande des guerriers Aguignés avant d'être capturé finalement. Alors, les Agniers vont ramener les prisonniers en Iroquoisie, par la rivière des Iroquois, qui est la rivière Richelieu. Et chacun des prisonniers va connaître son destin. À Achistari, qui est une prise de choix, les Iroquois sont contents. Ils ont pris le plus grand guerrier Wendat, la légende qu'ils redoutaient tant. Ils l'ont comme prisonnier. Alors lui, à Achistari, il va être torturé, selon la tradition, et brûlé vif. Il mourra dans la dignité Wendat. Mais ses dernières paroles sont surprenantes. Il innove. Il dira « Que ma mort ne mette pas en péril la paix souhaitée entre toutes les nations. » René Goupil, lui, sera tué quelques semaines plus tard, en fait en septembre. On va lui planter une hache dans le crâne pour avoir fait le signe de croix sur la tête d'un bambin. Alors, les Iroquois détestaient le signe de la croix. Ils croyaient que le signe de la croix était un acte puissant de sorcellerie maléfique. Quant au père Jogues, les Iroquois le gardent comme prisonnier otage dans l'espoir de négocier quelque chose avec les Français. Ils pensent que le père Jogues est un otage précieux. Guillaume Couture, lui, eh bien, il est adopté. On décide d'en faire un Iroquois, comme le sera Radisson quelques années plus tard. Et de la même manière en plus. Une veuve le prend comme fils et il remplace le capitaine qu'il a lui-même tué. Mais selon la tradition, avant d'être récupéré dans le monde Agnier, Guillaume Couture va subir la torture. Il va recevoir moult bastonnades publiques. On va tenter de lui couper les doigts, on va lui arracher les ongles, enfin, la totale et la classique. Il va survivre, bien sûr, on va le soigner ensuite, et il devient Iroquois. Les Hollandais de Rensselaerwijk, dont le célèbre Van Corlaer lui-même, vont tenter de négocier la libération des prisonniers français. Il y avait quand même une solidarité souterraine entre les nations européennes à propos des captifs européens à l'intérieur des sociétés amérindiennes. Mais les Agniers refusent. Cependant, avec la complicité des Hollandais, le père Jogues va réussir à s'évader. On va le mettre sur un bateau à New Amsterdam, à Manhattan. Et il va repasser en France, d'où il reviendra très rapidement à Québec en 1645. Mais le père Jogues ramène avec lui la rumeur de la mort de Guillaume Couture. On lui a raconté que Guillaume Couture, finalement, avait été torturé et tué. La rumeur est fausse, bien entendu, mais personne ne peut la vérifier. Couture, entre-temps, est devenu un Iroquois. Il restera 3 ans parmi eux et il sera même invité au conseil politique de la Confédération de la Longue Maison. L'historien Léopold Desrosiers dira de Couture qu'il fut le premier Européen à atteindre un haut statut politique parmi les Iroquois. Et il va jouer de son influence pour faire la promotion parmi les Iroquois d'une armistice possible avec les Français. Et l'idée va faire son chemin, sans vraiment aboutir, mais l'idée quand même fait son chemin. On débat de la question française parmi les politiciens Iroquois. Et il est vrai que durant des décennies et des décennies de guerre, les Iroquois furent souvent tentés par la paix et l'alliance avec les Français. Mais ce qui faisait toujours échouer ces plans de paix avec les Iroquois, c'était les Algonquins surtout, les Hurons qui sapaient toujours ce projet. Ils ne voulaient pas que les Français fassent la paix avec les Iroquois parce que ça affaiblissait la position de l'alliance des Hurons et des Algonquins. Néanmoins, Guillaume Couture, qu'on croyait mort, réapparaît à Trois-Rivières en 1645. Mais il réapparaît comme un fantôme. C'est pas croyable, c'est un Agnier parmi les Agniers. C'est un Iroquois qui se présente à Trois-Rivières. Et il est dans une délégation et on vient faire des pourparlers de paix. Guillaume Couture est vêtu comme un chef Iroquois, il parle comme eux, il accompagne le célèbre Kiotsaeton, qui est un grand chef parmi les Agniers Mohawks et dont l'éloquence fut toujours reconnue. C'est Montmagny lui-même qui reçoit la délégation à Trois-Rivières. La réception diplomatique sera faste, spectaculaire et française. Et Guillaume Couture, imaginez-vous, le menuisier devenu Iroquois, il se retrouve au cœur des pourparlers en tant que chef Iroquois d'une part, mais truchement de l'autre. Il traduit avec subtilité et précision les discours agniers aux Français, car il entend parfaitement la langue. Et il traduit aux chefs agniers la rhétorique française précieuse et tordue de Montmagny. En 1645, à la conférence de Trois-Rivières, on tient une entente de principe. Les Agniers vont devoir faire accepter cette entente par leur conseil politique de la longue maison. Ils vont donc s'en retourner en Iroquoisie et Couture s'en retourne avec eux. Les Français ont bien reconnu Guillaume Couture, mais ils n'en croient pas leurs yeux. C'est un Couture Iroquois qu'ils ont devant eux. Et en plus, mine de rien, il s'en retourne avec eux parce qu'il trouve que c'est important d'aller à la Confédération pour soumettre l'entente de principe. Les Français ne comprennent pas. Et la délégation iroquoise va revenir plusieurs mois plus tard. Ils vont confirmer le traité de paix. Mais ils mettent une condition. Il faut que les Algonquins, les Wendat, le signent aussi. Or, ceci est difficile. Ces dernières nations, on l'a dit, ne voient pas d'un bon œil l'arrivée des Iroquois dans les alliances franco-amérindiennes. Elles savent aussi qu'une paix avec les Agniers ne garantit pas la paix avec les autres nations iroquoises. Ce sont les Oneyoutes, les Cayugas, les Onondagas et les dangereux Tsonontouan qui sont en face des Wendat au lac Huron. Donc, c'est une affaire qui est complexe, extrêmement difficile à régler. C'est Guillaume Couture qui va se charger de toute cette question. Il se fait diplomate sur le terrain. Alors le voilà qui part en ambassade vers l'ouest auprès des Algonquins. Il va se rendre au Wendake, il fait des réunions politiques, il se désarme pour les convaincre. Et il va réussir, malgré tous les obstacles. La mission est impossible, mais il réussit à convaincre les Wendat et les Algonquins qu'il faut faire la paix avec les Iroquois et les Français. Il revient chez les Agniers, c'est chez lui après tout, et il va revenir à Québec pour l'entente finale. C'est un grand épisode, la paix de 1645. Guillaume Couture en est l'artisan réel sur le terrain. On doit cette entente historique à un menuisier, un homme du peuple, un adopté Iroquois qui parlait algonquin, huron et agnier couramment. Un homme qui pouvait seul se déplacer sur le territoire. Il connaissait les subtilités culturelles propres à chaque nation. Un homme de 29 ans, sans titre, voire sans mandat, plein de ressources mentales et physiques, qui souhaitait seulement que la guerre prenne fin et que le commerce puisse prospérer entre les peuples d'Amérique. Et c'est à cette époque que Guillaume Couture va se rapatrier lui-même. Il décide de revenir à Québec parmi les Français de Nouvelle-France. Ce sont les années où il va demander aux Jésuites d'être libérés de son engagement de donner. Il veut vraiment voler de ses propres ailes. Il est probable, dit-on, qu'il a voulu se marier à une Iroquoise. Mais ce projet, semble-t-il, n'a pas eu de suite. Et la paix qu'il a négociée si difficilement, bien, elle ne va pas durer. Et l'histoire va s'en aller dans un tout autre sens, un sens cauchemardesque. Car en octobre 1646, le père Jogues, revenu sur le terrain de l'évangélisation suicidaire, eh bien, le père Jogues est tué par les Iroquois. Il était en compagnie d'un Français, Jean Lalande, qui est tué lui aussi. L'année suivante, ce sera le début de l'épilogue de la grande aventure des Jésuites en Huronie. Le père Lallemand, le père Brébeuf seront torturés, mis à mort, conformément d'ailleurs à la propre prédiction de Jean de Brébeuf. N'avait-il pas écrit au père Lejeune à Québec que les missionnaires n'allaient pas sortir vivants de cette affaire? Il savait que les robes noires étaient accusées de sorcellerie maléfique. Brébeuf prévoyait l'échec total de l'entreprise qu'il menait lui-même depuis 20 ans avec l'énergie du désespoir. Parmi ces tortionnaires, d'ailleurs, il y a des Wendat et des Algonquins captifs des Iroquois, mais adoptés par eux. Et ces Wendat et ces Algonquins sont parmi les plus actifs. Ils sont convaincus, plus que tous les autres, des pouvoirs destructeurs des Jésuites, cause de toute leur déchéance. Jusqu'en 1650, c'est l'effondrement tragique du Wendake. La guerre se poursuit de trêve en trêve, elle se poursuivra encore pendant 50 ans. Donc cette paix de 1645-46 n'a pas survécu. Les Wendat ont tout perdu. La guerre, la santé, ils ont perdu leur pays. Ils seront désormais des réfugiés errants. Les grands Algonquins de l'Outaouais sont aussi malades, vaincus, pulvérisés en 1650. Malgré tout, et au milieu de toutes les tourmentes, Guillaume Couture repart en ambassade en 1647 pour tenter encore une fois l'impossible. Il sera chez les Wendat, mais il se rendra aussi auprès des Agniers dans la région d'Albany pour leur souligner la gravité de la mise à mort des missionnaires. Voyage dangereux qui demande de la crédibilité, beaucoup, beaucoup d'audace. Les distances sont considérables. Les risques de mourir sont énormes. Les Agniers vont l'écouter. C'est un des leurs, après tout. Mais ils ne prennent aucun blâme. Chez eux, on tue les sorciers maléfiques étrangers. C'est normal et c'est tout. Alors, ils respectent Couture, le renvoient chez lui, les mains vides. De retour à Québec, cette même année, Guillaume Couture, de guerre lasse, veut réorienter sa vie. Il est au début de la trentaine. Il a de très grandes aventures derrière lui. Mais le jeune aventurier cherche à se ranger. Désormais libéré des Jésuites, libéré des vœux de chasteté dont nous parlions, il se voit, il s'imagine colon, il s'imagine prendre femme et il veut fonder une famille. En face de Québec, il y a une seigneurie, la seigneurie dite de Lauzon. Elle avait été concédée en 1636 à Jean de Lauzon, premier directeur de la Compagnie des 100 associés. Mais depuis 10 ans, rien ne se passait de ce côté du fleuve. Pas de censitaire, pas de concession, aucun défrichage, aucune activité. C'est que le lieu n'était pas sûr, compte tenu des incursions iroquoises. Les Mohawks Agniers venaient jusqu'en face de Québec pour épier les activités de la ville. Ah, c'était la grande époque. Les ennemis étaient de l'autre côté du fleuve et s'installaient et regardaient les déplacements des barques et des canots. Mais Couture, lui, en 1647, ne craint pas les Iroquois. C'est un familier des Iroquois. Alors, il va demander à obtenir une concession, la toute première, dans cette seigneurie supposément dangereuse qui n'existait que sur papier. Il choisit son lieu, la pointe de Lévis. Une chose entraînant l'autre, il aura un partenaire, un autre censitaire nommé François Bissot, dit La Rivière. et ce dernier demande à Couture de lui construire sa maison. Alors, il va construire la maison de Bissot. Il va défricher une parcelle du lot de Bissot. Il fait ça pour l'argent, pour le salaire. Et le grand aventurier, diplomate, Iroquois, redevient menuisier. Guillaume Couture, d'ailleurs, était apparemment un excellent menuisier, ce qui le rendait précieux dans ce domaine. Il défriche bien, il fait du beau bois de charpente, il construit la maison de Bissot, il va construire sa maison. Mais quand il construisait avec art, architecture, souci de création, il mettait des enjolivures, c'était beau, une belle maison, il construisait bien. Alors, il y a Bissot, il y a Couture et il y a les Jésuites, dont on ne sait plus très bien si c'est eux, les Jésuites, qui collent à Couture ou si c'est Couture qui colle aux Jésuites. Mais Couture s'établissant à Lévis, voici que les Jésuites établissent une mission à Lévis, à côté, tout juste voisin de Guillaume Couture. Cette mission, c'est pour les Malécites des Appalaches sur la rive sud du fleuve. Alors, les Jésuites s'accrochent à la présence du bon Couture, comme ils disent, et ils s'installent non loin de lui. À cette époque aussi, Couture a des intérêts dans le bourg de Québec. Il a un lot dans la basse ville. Il veut être colon, il est menuisier, censitaire, mais il garde un œil sur le commerce et est très intéressé par la traite des fourrures. Il va être associé à la nouvelle compagnie des habitants et il fréquente les commerçants de Québec. Il connaît les truchements, les interprètes comme lui, les ensauvagés comme lui. Et il connaît très bien le dénommé Olivier le Tardif. Et en 1648, il va faire la connaissance de Anne Aymard, qui est la belle-sœur de Le Tardif. Il va la demander en mariage et il va l'épouser en 1649 dans sa maison de Lévis. Désormais, Guillaume Couture peut fonder une famille. Il a 32 ans et une famille, il va fonder puisqu'il aura une dizaine d'enfants. Guillaume Couture est un homme très énergique et très entreprenant, on le voit, car à 32 ans, il a des commerces à Québec, une pêcherie d'anguilles à Lévis, il vend des produits agricoles. On le dit de caractère très difficile, de commerce difficile, on le dit chicanier. Il aura d'ailleurs plusieurs conflits mineurs, des chicanes de clôture avec son voisin Bissot. En fait, il chicane avec tout le monde, un peu à la manière des colons de l'époque. Et pendant longtemps, des colons français de la Nouvelle-France qui n'arrêtaient pas de se poursuivre les uns les autres devant le juge. Et lui, c'est un champion. Il est toujours en train de se chicaner. D'une certaine manière, Guillaume Couture ressemble beaucoup à Chouard des Groseilliers. C'est un personnage important localement, à qui on se réfère de rechef quand il est question d'affaires iroquoises. C'est curieux, c'est un chicanier, mais il est diplomate. Mais ça ne marchera pas trop, ces histoires de se ranger. Il est un peu jeune, il est trop précieux, il a trop d'expérience. En 1657, il va refaire des voyages dans les pays d'en haut. Il va aller chez les Onondagas Iroquois, notamment. Les Jésuites y établissent une mission parmi les Iroquois. Ils ont besoin d'un interprète. Ils ont surtout besoin d'un homme crédible et compétent pour transiger avec les Onondagas. Les Onondagas, qui est la nation iroquoise, du centre de l'Iroquoisie, celle qui garde le feu central dans la Confédération de la Longue Maison. Voilà donc que Guillaume Couture reprend du service en terre iroquoise. Il se refait diplomate et il refera des voyages lorsque les Wendat chrétiens réfugiés à Québec envisageront de retourner dans leur pays d'origine, un projet qui va avorter, mais Guillaume Couture va s'y investir aussi beaucoup. Alors voyez, à cette époque, durant cette décennie, il est diplomate, il fait des allers-retours dans les pays d'en haut pour que les projets français fonctionnent. Donc, nous sommes dans les années 50 du siècle. Couture a conservé toute sa crédibilité auprès des Iroquois. On s'en sert beaucoup. Fait curieux, nous sommes en guerre. Les Iroquois sont des ennemis. Ces derniers viennent même le visiter dans sa maison de Lévis. C'est incroyable. En plein conflit. Ils viennent s'y réfugier. Un jour, un canot iroquois qui est en voyage pour attaquer Tadoussac, bien, il va se renverser en face de Lévis. Ils savent que Guillaume est là. Ils vont aller se réchauffer dans la maison, manger une bonne soupe, jaser avec Guillaume, puis ils vont repartir. Et tout ce que Guillaume va faire, c'est qu'il va envoyer des émissaires pour avertir Tadoussac qu'il y a une douzaine d'Iroquois qui vont aller les attaquer. À cette époque, la vie de Guillaume Couture recoupe réellement celle de Radisson et de Desgroseilliers. Il est certain que ces hommes se sont rencontrés à moultes occasions. Couture est plus de la génération de Desgroseilliers. Il a à peu près le même âge que Desgroseilliers. Comme Couture, Desgroseilliers a été un donné des Jésuites, il faut le rappeler. Desgroseilliers sera d'ailleurs celui qui maintiendra les alliances de commerce dans les pays d'en haut, les Grands Lacs, après l'effondrement du Wendake et la pénétration des Iroquois au pays des Ojibwés. Les entreprises de Desgroseilliers et de Radisson sont le fait d'entrepreneurs libres et affranchis. La différence entre Couture et Desgroseilliers et Radisson, c'est que Couture, lui, sera toujours associé aux intérêts des Jésuites. Il est temps de parler de cette affaire des Jésuites. Car, à cette époque, c'est encore un projet secret des Jésuites qui le conduira à reprendre le chemin des grandes explorations. Il accepte de participer à un voyage dans la Terra Incognita en amont du Saguenay. Personne n'avait été en amont du Saguenay. Officiellement, l'idée est celle du gouverneur d'Argenson. Officieusement, c'est le rêve des Jésuites commerçants de fourrure. Les Jésuites rêvent de découvrir le chemin qui mène à la baie du Nord. Il s'agit de la baie du Tson et de la baie James. Le navigateur Hudson, en 1610, l'avait reconnu. Le navigateur James, en 1634, l'avait reconnu. Mais ils étaient allés à la baie du Son et à la baie James par la voie maritime. Les Jésuites savaient qu'il y avait du castor et des âmes dans ces régions. Encore fallait-il trouver le chemin à partir du Saint-Laurent. Ce chemin, la voie royale, c'était le Saguenay. Il fallait traverser le partage de la ligne des eaux et se retrouver de l'autre côté, le versant de la baie. Mais personne n'avait jamais fait cette route, hormis les Innus, les Cris, les Atikamekw et les Algonquins abitibiens. Le gouverneur d'Argenson autorise une expédition française en 1661. C'est pas un hasard, deux Jésuites vont la diriger, les pères d'Ablon et Druyette. Guillaume Couture va donc joindre le groupe qui emporte aussi un dénommé François Pelletier et un autre Français, Denis Guyon. Mais ce sont les Innus qui les guident et ce sont eux qui vont mener l'expédition en vérité. La preuve, c'est que lorsque les Innus, qui ne sont pas chauds à l'idée de voir les Français traiter directement avec les Cris de la baie James, lorsque les Innus décident de faire avorter le voyage, l'expédition va avorter effectivement quelque part sur la Chapmouchouane, au nord de Piquagami, qui est le nom original Innu du lac Saint-Jean. Guillaume Couture est furieux. Il ne veut pas revenir, mais il n'est pas le commandant de l'expédition. Il doit se rallier. 2 ans plus tard, Guillaume Couture va repartir pour la découverte de la baie du Nord sous l'impulsion d'un autre gouverneur, Davaugour. Cette fois, Couture dirige. Alors imaginez, c'est toute une expédition. 40 canots conduits par des Innus. 3 Français, Guillaume, bien sûr, Pierre Duquet, futur notaire, et Jean Langlois, charpentier de navire. C'est une exploration d'envergure, un grand voyage, tant par son objectif que par les indices de difficulté qui sont très élevés. Le voyage va s'amorcer au printemps, il va se terminer à l'automne suivant. Le Saguenay remonté jusqu'à sa source, le Piquagami traversé, on s'enfonce dans l'inconnu. Là où l'expédition précédente avait rebroussé chemin. Terres inconnues pour les 3 Français, mais certainement pas pour les Innus qui voyagent à l'intérieur de leur propre pays, il ne faut pas l'oublier. Néanmoins, la route est très difficile. On remonte constamment le courant des rivières, c'est pas facile. On pénètre aussi dans la taïga, qui est un milieu impardonnable, la redoutable forêt boréale. Et on le fait en été, ce qui est parfaitement normal, car normalement, les Innus voyagent en hiver dans la taïga. Mais là, le voyage est absolument atypique. Personne d'humain ne se déplace impunément en été au royaume des épinettes noires et des mouches noires. Les Algonquins du Nord l'ont toujours su, qui passent et passaient leurs vacances d'été le long des grands plans d'eau. Mais le voyage se fait malgré toutes les misères liées à la nature du territoire. Les hommes franchiront la ligne de partage des eaux. Ils se retrouveront sur le versant hydrographique de la baie du Tson ou de la baie de James. Cela n'a pas réglé le supplice des mouches, mais au moins on descend le courant des rivières. couture atteint la région générale de ce qui est aujourd'hui Chibo-Gamo, la rivière qui est un lac, et il découvre, entre guillemets, le grand lac Mistassini, la grande roche en algonquin. Ils auront beaucoup de difficultés à trouver la décharge principale de cette mer intérieure, la rivière Rupert qui mène à Nimisco. Mais ils finiront par réussir. Ici, les Innus ne sont plus dans leur pays. Depuis le passage de la ligne de partage des eaux, nous sommes au pays des Iyus, des Cris de la baie James, peuple frère et cousin des Innus, parlant une langue mutuellement intelligible, chasseurs nomades comme les Innus et algonquiens comme eux. À Nimisco, l'expédition rencontre une communauté Cri. Ce n'est pas un hasard. Les Cris sont au repos de l'été sur les rives de ce grand lac. Les Français expliquent leur intention. Ils sont là pour la traite des fourrures. Les Cris sont ravis de voir arriver chez eux, au cœur de leur pays, ces partenaires commerciaux potentiels. Et il y a une entente informelle. Et l'expédition va poursuivre sa route, qui est la descente de la Rupert. Elle va finalement arriver à la Grande Baie du Nord. Nous sommes en 1665. L'histoire n'a jamais reconnu la grandeur de cet exploit au chapitre des explorations et découvertes. 4 ans plus tard, Radisson et des Groseilliers avec les Anglais seront à la baie par la voie maritime et ce sera la fondation de la Hudson Bay Company. Guillaume Couture est donc désormais un grand explorateur. Sur le plan de la géopolitique, les résultats sont immenses. La France a bel et bien touché aux rives de la baie James. Guillaume rentre à la maison à l'automne. Il va repartir aussitôt, et cette fois au Labrador. En mai 1666, il pénètre au cœur du pays des Innus nordiques, les Papinachois et les Betiamites. Officiellement, encore une fois, il accompagne un prêtre, le Père Nouvel. Officieusement, il recense de nouveaux territoires de traite. Il passera l'hiver dans la forêt boréale, un hiver très nordique au Labrador, à la chasse, à la trappe, en compagnie des Innus. Guillaume Couture a 49 ans. Il a traversé tout le Québec dans sa partie nordique, d'est en ouest et de sud au nord. À son retour à la maison, après presque un an d'absence, en 1667, il va repartir pour une dernière mission diplomatique parmi les Hollandais. Et là, il va retrouver une vieille connaissance, Von Corlaer, qui avait proposé à l'époque de le faire évader lorsqu'il était captif plus jeune chez les Iroquois. Pourquoi va-t-il rencontrer Von Corlaer? Bien, il va protester contre le meurtre de 3 officiers français par les Agniers. Au terme de ses voyages et de ses tractations, dans les formes, Guillaume Couture va ramener le capitaine des meurtriers, Agoriata, qu'il s'appelait. Et il revient avec l'accord des Iroquois qui reconnaissent le tort fait aux Français, qui reconnaissent que c'était un meurtre inutile, gratuit, que Agoriata doit être puni par les Français. Ce voyage spectaculaire sera le dernier voyage de Couture, sa dernière mission parmi les Iroquois. Agoriata sera pendu en grande cérémonie de justice devant les Iroquois et devant les Français. À l'âge de 50 ans, cet homme rentre pour de bon à la maison où l'attendent Anne, sa femme, et déjà 8 enfants. Il va se ranger réellement. Il avait jusque-là délégué toutes ses affaires de colon à d'autres. Même ses affaires de père de famille n'étaient jamais là. Il devait d'ailleurs à cette époque, à son retour, beaucoup d'argent à un dénommé Durand qui s'était occupé de cultiver la terre, de vendre les choses, en fait, de s'occuper des bâtiments. Il faisait tout. Mais il n'avait jamais été payé. Et là, il réclame à Guillaume Couture son salaire de plusieurs années. C'est une somme considérable. Et là, on apprend, d'abord, que Guillaume Couture est un mauvais caractère, et ça va finir devant les tribunaux. Mais on apprend aussi que Guillaume Couture, malgré tout, n'est pas riche. il n'a pas l'argent. Il n'y a pas de liquidité. C'est un homme qui est très actif, qui est très connu, qui va partout, qui va à gauche, qui va à droite, mais il ne s'est pas enrichi malgré tout. Mais sa vie, à partir de cette époque, sera celle d'un colon influent dans son village, mais d'un colon tranquille. Il sera juge sénéchal, il sera chef de la milice, il sera de toutes les affaires villageoises du développement de la communauté de Lévis. Lui qui avait arpenté tant d'espace, qui avait tant parcouru de distance et qui s'était trouvé au cœur des plus grands enjeux politiques aux premières loges de l'histoire de l'Amérique franco-amérindienne, eh bien, il menait désormais une vie de retraité, chicanier, il se disputait avec les marguillers, il se disputait avec son voisin, il chipotait pour les cochons qui passaient dans son jardin. On a dans les archives toutes sortes de références aux activités et il s'obsédait de petits détails. Il a vécu longtemps, Guillaume Couture. Sa femme et lui sont morts avec le siècle. Elle en 1700, lui en 1701. Ils étaient vieux, à charge de leurs enfants depuis plusieurs années. Guillaume Couture meurt en effet à l'âge de 84 ans. Quelques mois après sa mort, à Montréal, les Iroquois et une trentaine de nations amérindiennes signait le grand traité de paix, la paix de Montréal, l'été 1701. Tout ce que Guillaume Couture avait espéré se réalisait l'été suivant sa mort à Montréal. Guillaume Couture. Un autre remarquable oublié, dont la vie fut beaucoup plus intense et significative que celle de bien des gouverneurs, monseigneurs, généraux et intendants. Cela donne à réfléchir encore une fois. Un homme du peuple, un menuisier, à l'origine un Normand vigoureux, serviteur des Jésuites dans leurs folles entreprises américaines parmi les Wendats. Adopté Iroquois, qui assista au conseil de la Longue Maison, où il avait droit de parole. Fait unique et remarquable en soi. Diplomate, infatigable émissaire, truchement et interprète, passeur de culture entre la française, l'iroquoienne et l'algonquienne, alter ego de Desgroseilliers, survivant des entreprises les plus risquées, les plus dangereuses. Explorateur de la taïga, à la baie James, au Labrador, commerçant de fourrures, coureur des bois, premier colon à Lévis, bâtisseur, défricheur, entrepreneur, le père de la lignée de tous les coutures d'Amérique. Il se range parmi les grands personnages historiques de l'histoire de l'Amérique, au panthéon des coureurs d'espace, des négociateurs de culture, avec les Radisson, les Joliette, les Nicolas Perrault de ce monde. Iroquois, Algonquin, nouveau français d'une nouvelle France qui aurait pu être grande si la France précieuse avait mieux reconnu la beauté de ses vrais visages.
Les fondateurs de la rive sud et de la rive nord de Québec, Guillaume Couture et Samuel de Champlain, ont tous deux un lieu de sépulture inconnu. Couture est considéré comme le fondateur de la rive sud de Québec, car Jean de Lauzon, premier propriétaire et seigneur, n'a jamais habité sa seigneurie et ne l'a même jamais visitée. Il en avait confié l'administration au bon Guillaume, comme le nommaient les jésuites. En 1947, le regroupement des familles Couture a érigé une statue en l'honneur de Guillaume pour le 300e anniversaire de son installation sur la pointe Lévis. Serge Bouchard racontait à sa manière Guillaume Couture en s'inspirant entre autres de Guillaume Couture le roturier, bâtisseur, de Pierre Couture publié chez XYZ. Recherche Lise Ménard, technicienne à la prise de son, au montage et au mixage sonore Réjeanne Leblanc, choix et scénarisation musicale, présentation et réalisation Rachel Verdon. De remarquables oubliés est une idée originale de Serge Bouchard et Rachel Verdon.